Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans l'amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc bienvenue au public qui est ici avec nous ce soir, qu'on est très heureux d'accueillir. Et bienvenue aux internautes qui nous suivent en direct sur YouTube. Donc, alors ce soir, il se trouve qu'on était complet, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui n'ont pas pu obtenir d'invitation. Je vous rappelle que les invitations pour venir assister à ces conférences dans notre amphithéâtre, on peut les demander gratuitement sur notre site web, donc un mois avant chaque conférence, donc celle du mois prochain, on pourra les réserver à partir de demain. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui sont loin, et vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc je rappelle également qu'il y a un chat sur YouTube, donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions à notre orateur, et à la fin, en même temps que les questions, enfin en les mélangeant avec les questions du public, je retranscrirai des questions qui seront sur le chat de YouTube. Alors merci quand vous faites des commentaires sur le chat de YouTube, d'essayer de mettre des commentaires qui vous semblent intéressants pour tout le monde. Assez souvent des fois, là, les commentaires où les gens se laissent un petit peu aller à raconter un peu ce qui leur passe par la tête. Donc merci d'être vigilant à ça pour que ce chat reste de bonne tenue, de tenue scientifique pour une conférence de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc je vous présente brièvement le programme pour nos prochaines conférences. Le mois prochain, le 6 décembre, nous recevrons notre collègue David Elbaz qui présentera une conférence intitulée « L'histoire de l'univers racontée par la lumière ». Et puis le programme de début 2023, on vient de le mettre en ligne pour les orateurs déjà. Donc le 3 janvier, nous aurons notre collègue de l'IAP, Irina Dvorkin, qui nous parlera probablement d'ondes gravitationnelles, d'objets massifs. Le 7 février, nous aurons Antonella Barucci qui viendra nous parler de l'étude du solaire avec la sonde de l'Agence spatiale européenne qu'il étudie en ce moment même. Le 7 mars, nous aurons David Valls-Gabo qui viendra nous parler de l'anti-gravitationnelle. Et le 4 avril, notre collègue Pierre Guillard, ici de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui viendra nous parler des premiers résultats du télescope James Webb. Et ce soir, nous avons le plaisir donc, d'accueillir notre collègue Michel Denfeld. Michel est astronome ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, tu as commencé en faisant des études de physique, puis tu as été l'un des premiers astronomes à aller travailler à l'Observatoire européen austral, donc, qui installe des télescopes au Chili et qui les opère, qui les utilise toujours depuis. Puis tu as rejoint ici l'Institut d'astrophysique de Paris, dont tu as été directeur adjoint il y a quelques années. Tes thématiques de recherche, donc c'est l'évolution chimique des galaxies, notamment les nébuleuses, via les nébuleuses planétaires, la formation stellaire, les noyaux actifs des galaxies, le ciel variable avec notamment le suivi des supernovas, et tous ces objets lointains qui varient. Tu es très impliqué également dans le développement instrumental pour les observatoires au sol. Et ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Les nuages de Magellan, de l'histoire à l'étude scientifique ». Donc, je t'en prie.
Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler des nuages de Magellan. Et l'exposé sera divisé en deux parties. En gros, la première partie, c'est une partie historique où on va suivre l'exploration du ciel austral et savoir qui éventuellement, et pourquoi ces nuages sont appelés nuages de Magellan, parce que bien entendu, ils étaient connus avant le voyage de Magellan. Et dans la deuxième partie, on discutera de l'intérêt scientifique de continuer à les étudier aujourd'hui. Alors, normalement, ça doit marcher comme ça. Voilà. Alors, tout d'abord, peut-être n'avez-vous pas fait attention, mais cette année, nous célébrons le 500e anniversaire du retour des survivants de l'expédition de Magellan. Le 6 septembre, ils sont arrivés à l'embouchure du Guadalquivir et le 8 septembre à Séville, avec seulement 18 survivants sur près de 240 qui étaient partis. Bon, il faut dire que certains étaient rentrés avant, puisque le San Antonio avait déserté en Amérique du Sud avant le passage du détroit, et une douzaine d'autres ont été retenus prisonniers par les Portugais aux îles du Cap-Vert sur le retour, mais quand même, il y a eu énormément de pertes en route. Le capitaine de la Victoria, qui est le seul navire qui soit rentré à Séville, c'était Sébastien Del Cano, qui a été gratifié par l'empereur Charles Quint du titre premier à avoir fait le tour du monde. Et parmi les 18 survivants européens, parce qu'il y a eu quelques Moluquois qui avaient été embarqués en cours de route, il y a Antonio Pigafetta, qui est un chroniqueur, qui en fait s'était embarqué comme surnuméraire dans l'expédition, envoyé par le duc de Mantoue, probablement. Et pourquoi est-ce qu'il nous intéresse particulièrement? Parce que c'est le seul qui ait rédigé à l'arrivée un compte-rendu assez détaillé de tout ce qui s'était passé pendant le voyage. Et, entre autres, il mentionne à un moment donné, juste après le passage du détroit, qu'il a vu dans le ciel, alors je vous lis, qu'il a vu à peu de distance de l'autre, au milieu de ces amas de petites étoiles, on en découvre deux fort grandes et fort brillantes, mais dont le mouvement est peu apparent, elles indiquent le pôle Antarctique. Alors, ce texte, vous pouvez le trouver à la Bibliothèque nationale aujourd'hui, c'est une traduction française qui date de peu après la Révolution, mais en fait, les premiers comptes rendus ont été rédigés en italien par Pigafetta lui-même, dont un exemplaire a été offert à Louise de Savoie, la mère de François Ier, qui était la régente du royaume à l'époque. Il faut se rappeler, François Ier était prisonnier après la bataille de Pavie. Et la première traduction française est apparue probablement aux alentours de 1526, ici à Paris, par Simon de Colline à la rue Saint-Jacques. Mais beaucoup d'éditions ultérieures ont été produites et traduites, non seulement en français, mais en anglais, en latin, etc. Mais ce n'est pas le premier texte qui ait été distribué. Le texte le plus distribué, mais qui ne parle pas du ciel, c'est la lettre de Maximilianus Transilvanus, qui était le secrétaire de Charles Quint. Donc, Pigafetta a remarqué le ciel austral. D'ailleurs, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller dans le sud voir le ciel. Le ciel sans lune, évidemment, est beaucoup plus magnifique, je dirais, que ce qu'on peut voir dans l'hémisphère nord. Et les nuages de Magellan sont facilement visibles à condition d'y être à la bonne époque. Et on va voir un petit peu ce que ça veut dire en pratique. Donc, que sont les nuages de Magellan? Ce sont deux galaxies voisines de la nôtre, des galaxies qu'on appelle naines parce que leur masse est beaucoup plus petite que celle de notre galaxie, typiquement de l'ordre du centième. Elles se trouvent à des distances de 160 et 200 000 années-lumière respectivement. Pour référence, je vous rappelle que la galaxie d'Andromède, qui est beaucoup plus grosse, se trouve à 2,5 millions. Donc ces galaxies sont suffisamment proches pour qu'on puisse les étudier en détail, et c'est bien ce qui nous intéresse ici, en particulier parce que leur composition chimique est nettement différente de celle de notre galaxie ou d'Andromède. Elles sont beaucoup plus pauvres en métaux, ce qui veut dire que leur formation d'étoiles a été plus lente ou plus récente, et leur composition se rapproche davantage de celle des galaxies qui se sont formées au début de l'univers, d'où leur intérêt. Évidemment, ces galaxies visibles à l'œil nu, je vais vous montrer quelques images, étaient déjà connues des indigènes en Amérique du Sud avant l'arrivée des Européens. Et d'ailleurs, par exemple, les Indiens Mapuche au Chili, vous voyez ici une image où on voit bien la Voie lactée. Il faut que je pointe là, la Voie lactée ici, et vous voyez que les nuages de Magellan, le petit et le grand, ressemblent fort à la Voie lactée. Les Indiens Mapuche disaient la Voie lactée, c'est une rivière du ciel, et ces deux points, ce sont deux étangs. Et de même, les indigènes au Brésil disaient que ce sont deux étangs, dans le grand nuage, c'était les tapirs qui venaient boire, et dans le petit nuage, c'était les pécaris. Donc, si vous voulez, la similarité entre les nuages de Magellan et la Voie lactée était déjà connue, même si, évidemment, scientifiquement, elle n'était pas établie, mais était déjà connue à l'époque. Et on les voit à l'œil nu, par ciel sans lune. Alors là, il faut que je sorte un instant de la connexion, si je vais arriver à vous montrer, parce que ça ne marche pas, là. Pour vous montrer... Attendez. Excusez-moi. Si j'arrive à faire marcher l'animation. Bon, je pense que ça ne marche pas. C'était pour montrer qu'au cours de la nuit, tant pis, hein, je vais continuer comme ça, au cours de la nuit, le ciel tourne et que par conséquent, vous ne voyez pas les nuages en permanence. Et donc, selon l'époque de l'année où vous voyagez dans l'hémisphère sud, vous verrez ou vous ne verrez pas les nuages. Ce point est important parce que lorsqu'on va suivre l'exploration ce qu'on va faire maintenant, l'exploration de l'hémisphère sud, on peut s'étonner que certains des observateurs qui embarquaient avec les navires n'aient rien mentionné des nuages dits de Magellan. Alors, si on suit la progression des Portugais vers le sud, vous voyez ici une carte de l'ensemble du monde. L'Australie n'était pas connue à l'époque, c'est pour ça qu'il y a une croix ici. J'ai marqué à gauche les deux dates que vous connaissez bien, Christophe Colomb, et puis en bas, Magellan, 1520. Mais on va voir que la progression, l'exploration de l'hémisphère sud était beaucoup plus systématique, faite par les Portugais. D'abord, la découverte des Açores, 1427. Ensuite, ils longent les côtes de l'Afrique. Et en 1434, Gilles et Annès franchissent ce qui était considéré comme la limite du monde connu à l'époque, le Cap Bojador. Et progression systématique vers le sud. 1455, la Gambie et la découverte des îles du Cap Vert. Ensuite, plus loin au sud, 1477, il manque 1482 qui est l'embouchure du Congo. Et en 1488, Bartolomé Dias découvre le Cap de Bonne-Espérance. Donc on voit bien qu'il y a une progression systématique qui au début se faisait le long de l'Afrique. Parce que évidemment on longeait les côtes puisqu'on ne savait pas ce qui se passait au milieu et c'était plus rassurant. L'exploration se continue par Vasco de Gama qui, ayant franchi le Cap de Bonne-Espérance, va au Mozambique et après traverse l'océan Indien pour finir à Calicut. J'ouvre une parenthèse ici, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Les textes disent qu'il a obtenu l'aide d'un pilote arabe qui utilisait le manuel de Ibn Majid, et qui est un des manuels, donc on verra tout à l'heure, qui mentionne les nuages du sud, mais évidemment pas le nom de Magellan. Et ensuite, Afonso de Albuquerque arrive. Il manque une date, oui. Afonso de Albuquerque arrive en 1507 à Oman et ensuite, en 1511, ils arrivent au bout de la Malaisie et de là, quelques expéditions partent pour explorer les îles dites les îles des épices, les Moluques. Et Magellan faisait partie de l'une de ces expéditions, mais on ne sait pas s'il est arrivé jusqu'aux Moluques. En tout cas, il était certainement en Malaisie et a déjà navigué dans le coin. Et voilà, 1522, c'est la fin du voyage pour lui, puisqu'il a été tué aux Philippines dans un affrontement avec des guerriers locaux. Alors, chaque navire emportait à son bord un pilote astrologue. À l'époque, on ne s'appelait pas astronome, on s'appelait astrologue, mais en fait, c'était la même chose. Et l'idée, c'était d'utiliser les étoiles pour mesurer la position du navire. Alors, c'est un petit schéma simple, mais l'idée est simple. Si vous avez un moyen de repérer le pôle et que vous mesurez sa hauteur au-dessus de l'horizon, la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon est égale à la latitude du lieu où vous vous trouvez. C'est aussi simple que ça. Encore faut-il avoir quelque chose qui marque le pôle. Dans l'hémisphère nord, c'est relativement simple, c'est l'étoile polaire. Mais les astronomes de l'époque avaient déjà remarqué que l'étoile polaire se trouvait à 3,5 degrés du pôle et que par conséquent, la mesure de l'étoile polaire, il fallait la corriger de ces 3,5 degrés pour avoir la vraie latitude du lieu. Et une erreur de 1 degré de latitude, ça représente quand même une erreur d'environ 110 km, donc ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, l'étoile polaire est plus proche du pôle, mais elle est quand même encore à pratiquement 1 degré. Et alors au sud, eh bien, le but de tous ces astronomes à bord, une fois l'équateur franchi, c'était d'essayer de repérer quelle étoile ou quelle constellation pouvait remplacer la petite ours dans le nord pour leur indiquer le pôle sud. Et cela explique aussi que leur but principal étant de mesurer les latitudes, il n'est pas mentionné systématiquement la vision des nuages de Magellan, bien que, évidemment, ces nuages étaient visibles à l'œil nu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, ça, c'est un schéma qui est extrait du traité de Ibn Majid, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étoile polaire tourne autour du pôle avec un rayon de 3,5 degrés. Et pour savoir si le pôle est au-dessus ou en dessous, il faut regarder l'orientation de la petite ours, ce qu'on appelle les gardes du chariot. Selon que bêta se trouve par exemple à l'est, il faut rajouter 1,5 degré. S'il se trouve à l'ouest, il faut soustraire 1,5 degré. S'il se trouve au nord, il faut ajouter 3 degrés. Et s'il se trouve au sud, on soustrait 3 degrés. Donc, on observait la position de la petite ours et on corrigeait la mesure de la polaire de ces degrés en fonction de l'orientation. Le plus ancien traité qui nous soit parvenu, c'est celui de Al-Soufi en 964, qui mentionne que au sud se trouvent quelques étoiles luisantes et blanches qui ne se font voir ni dans l'Irak ni dans Natchez, qu'on appelle les vaches. Ce traité a été traduit en français par Skellerup sur un manuscrit de Saint-Pétersbourg en 1874. Ne vous étonnez pas qu'il ait été traduit en français, parce qu'à l'époque, le français était la langue des communications internationales. Donc vous pouvez le consulter aujourd'hui et retrouver ce texte. Malheureusement, sur aucun des globes qui datent de l'époque, on ne voit représenter les nuages de Magellan. Vous voyez éventuellement représenter ici Sirius, Canopus, et Ibn Majid dit « Les nuages sont à 10 doigts de Suhail, c'est-à-dire de Canopus, et à 20 doigts de Sirius au sud. » Donc, ils devraient se trouver quelque part ici. Mais ils ne sont pas représentés, pas plus que sur le globe de Malcolm. Mais les Arabes l'avaient vu. Simplement, ça ne leur servait pas pour la navigation. Si on regarde la carte ici, les Arabes sortaient par ici, mais en fait, ils allaient à peu près plein sud, et leur manière de naviguer, c'était de décider, en fonction de la hauteur d'une étoile de référence, lorsque l'étoile avait atteint la hauteur qu'ils souhaitaient, ils allaient soit à l'est vers l'Inde, soit à l'ouest sur la côte africaine. Et la position de leur but en Afrique ou en Inde était repérée simplement par la hauteur d'une étoile de référence, soit la polaire, soit les Pléiades, soit une autre étoile brillante de l'hémisphère nord. Et quand ils allaient au sud, ils utilisaient Canopus. Donc on comprend qu'ils ont certainement observé les nuages, puisqu'ils en parlent dans leur traité, mais ils n'en avaient pas besoin, ce n'était pas utile pour leur navigation. Donc ça ne figure pas régulièrement dans les traités qu'ils utilisent. Et si on ne voit pas d'étoiles suffisantes, on peut utiliser le soleil. Ça, c'est une technique qui a été mise au point par les Portugais, par la Junta dos Matemáticos. On peut faire la même chose avec le soleil. Vous mesurez la hauteur du soleil et vous en déduisez votre latitude. Oui, sauf que la position du soleil, elle varie au cours du jour. Bon, donc on décidait, il faut mesurer à midi au méridien, mais elle varie aussi en fonction de la période de l'année. Et donc, on avait des tables qui donnaient la déclinaison du soleil en fonction des jours de l'année et à partir desquels vous pouviez, en mesurant la hauteur du soleil à midi, déduire votre latitude. Et c'est ça la technique qui a été utilisée systématiquement dans l'hémisphère sud à partir du moment où ils ont repéré qu'il n'y avait aucune étoile qui indiquait le pôle sud. Alors, je vous montre ici un schéma qui est extrait d'un traité qui n'a rien à voir avec l'astronomie. C'est un traité qui a été écrit par Hans Staden, Wahrhaftige Historie einer Landschaft der wilden Menschfresser, qui se traduit en français, a été traduit en français sous le titre Nu, sauvage et anthropophage. D'ailleurs, Lévi-Strauss l'a mentionné dans ses premiers traités parce que c'est le premier traité qui mentionne les mœurs des Indiens Tupinamba au Brésil, parce qu'il était à bord d'un navire espagnol qui a fait naufrage et s'est trouvé prisonnier des anthropophages pendant plusieurs mois. Il a réussi à s'échapper au bout de quelques mois et a écrit ce traité à son retour. Mais l'illustration est intéressante parce que c'est un navire d'époque et vous voyez ici un astronome qui utilise un astrolabe pour mesurer la hauteur du soleil ou une balestrie pour mesurer la hauteur de la lune. Donc c'est ça les techniques qui était utilisé pour mesurer la hauteur des étoiles. Mais on imagine bien que le bateau, ce n'est pas immobile, hein, ça bouge, donc c'était assez compliqué et peu précis. D'ailleurs, on verra tout à l'heure que l'un des premiers rapports envoyés au roi du Portugal mentionne bien que les mesures sont plus précises quand elles sont faites à terre qu'en mer. Donc voilà, c'est la même mesure avec l'étoile, vous utilisez le soleil, mais il faut savoir où se trouve le soleil, est-ce qu'il est au nord de l'équateur, est-ce qu'il est au sud de l'équateur, selon que vous-même vous êtes au nord ou au sud, il faut ajouter, il faut soustraire, c'était pas à la portée de n'importe quel marin de l'époque, et donc il y avait des instructions de navigation, regimento de navigar, qui expliquaient comment il fallait faire, regarder de quel côté se trouvait l'ombre du soleil, est-ce qu'elle était vers le nord ou le sud, etc., et donc des calculs simples à effectuer. Le plus ancien, d'ailleurs, de ces regimento de navigar qu'on a retrouvé se trouve non pas au Portugal, mais à la bibliothèque à Munich. Donc ça, je vous l'ai montré. Voilà. Alors, les premiers voyages vers le sud qui mentionnent quelque chose d'astronomie, le premier d'entre eux, c'est le voyage de Cadamosto qui a atteint la rivière Gambie le 13 juillet 1455. Il mentionne la Croix du Sud, c'est probablement à la suite de ça que Dante la mentionne dans son Purgatoire, mais il n'y a pas de mention des nuages, mais évidemment, c'était au mois de juillet, et je vous ai montré tout à l'heure que, ben, au mois de juillet, les nuages ne sont pas visibles, ils sont visibles en gros au sud entre septembre et février. Alors, un point important sur le choix des routes. Les Portugais, comme je vous l'ai dit, longeaient la côte, mais une fois qu'ils arrivaient ici, vers l'embouchure du Congo, ils rencontraient des vents contraires, et souvent même des calmes plats, et donc c'était une région à éviter. Donc ils ont mis en place ce qu'on appelle la Volta do Mar, où ils déviaient un peu plus vers l'ouest, jusqu'à ce qu'ils rencontrent les vents favorables plus au sud pour franchir le Cap de Bonne-Espérance. Et c'est comme ça que Cabral a découvert par hasard le Brésil en 1500, parce qu'il était allé un peu plus à l'ouest que ce qu'il aurait dû. Alors, ce voyage de Cabral, il est intéressant pour nous, parce que dès qu'il a découvert le Brésil, il a renvoyé un de ses navires. C'était une expédition de 15 navires qui faisait suite à la découverte de Vasco de Gama, 1498. Donc, les Portugais ont envoyé une flotte de 15 navires pour aller occuper les Indes et ramener les épices. Donc, sur 15 navires, il a pu en détacher un qu'il a renvoyé au Portugal pour annoncer au roi qu'il avait découvert le Brésil. Et dans ce navire, il avait renvoyé des lettres de trois de ses pilotes, dont celle, je vais vous montrer. Une parenthèse, ça, c'est la course du Vendée Globe 2020-2021 en rouge. Et vous voyez qu'ils font exactement la même route. Ils évitent le creux ici. Et longe la côte du Brésil. Simplement, eux, ils vont ensuite à l'est, parce que c'est la façon dont ils font le tour, alors que Magellan et autres, et ce qu'avait fait Cabral, alors que Magellan et d'autres sont allés dans l'autre sens. Mais aujourd'hui encore, c'est exactement la même route, on va jusqu'à la côte du Brésil pour après contourner la pointe de l'Afrique. Et donc, Cabral renvoie un navire avec des lettres au roi du Portugal pour lui annoncer la découverte. Et l'une de celles-ci, qui est celle de Mestre Joao, qui se trouve aujourd'hui aux archives des Torre do Tombos à Lisbonne, vous pouvez la consulter, et elle contient un schéma que j'ai reproduit ici. Ouais, le schéma se trouve dans la lettre, là, et je l'ai reproduit ici, avec la Croix du Sud, le triangle austral, ce qu'ils appellent las guardas, ben c'est alpha et bêta du centaure, qui vous permettent de voir l'orientation de la même façon que la petite ours dans l'hémisphère nord. En fonction de l'orientation, vous savez s'il faut additionner ou soustraire les quelques degrés, puisque la Croix du Sud ne se trouve pas du tout au pôle sud. Et ils mentionnent le pôle antarctique. Mais il n'y a aucune mention des nuages de Magellan qui devraient se trouver par ici. Ben, encore une fois, ça ne les intéressait pas. Et de toute façon, au mois de juillet au Brésil, ils ne risquaient pas de les voir. Mais donc, c'est une des premières mentions avec un schéma précis des étoiles de l'hémisphère sud. Amerigo Vespucci lui-même avait fait plusieurs voyages dans l'hémisphère sud. On pense même qu'il a dû toucher le Brésil avant Cabral, lors de son voyage en 1499 avec Alonso de Ojeda. Mais certainement, dans son troisième voyage en 1501, il mentionne qu'il a vu deux canopes, des nuages brillants et un canope sombre. Les deux canopes brillants sont les nuages qu'aujourd'hui nous appelons de Magellan, et le canope sombre, c'est le sac à charbon, qui se voit, c'est-à-dire un nuage obscur qui se voit très bien dans l'hémisphère sud. Donc Vespucci avait parfaitement noté la présence de ces nuages. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, il le dit lui-même dans les lettres qu'il a écrites, qu'il a envoyé ses notes de voyage et ses mesures à la demande du roi du Portugal, il lui a envoyé son cahier, mais dès qu'il les récupérera, il les publiera, sauf qu'il ne les a jamais récupérées, et donc on ne connaît pas le détail de ses mesures, malheureusement. Mais Vespucci était suffisamment reconnu comme pilote astronome de premier ordre, puisqu'il a été nommé le premier piloto-major, c'est-à-dire en gros le directeur de la Casa de Contratación a Séville, c'est-à-dire là où tous les pilotes du roi d'Espagne devaient passer pour récupérer leurs cartes et leurs instructions de voyage. Amerigo Vespucci a été le premier. Donc, il y a eu pendant longtemps des controverses sur ses qualifications, mais le fait d'être nommé le premier directeur d'un institut aussi prestigieux que la Casa de Contratación, il n'y a aucun doute là-dessus, c'était un navigateur de premier ordre. Et d'ailleurs, vous savez certainement que, mais ça, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas à lui qu'on le doit, que le nom Amérique a été donné au continent américain d'après son nom, mais ça, c'est par les cartographes du duc de Lorraine à Saint-Dié. Parce qu'ils avaient entre les mains une des premières publications de l'époque au sujet des nouvelles découvertes et géographies qui s'appelait le Mundus Novus, dans lequel se trouve le récit de Amerigo Vespucci. Alors, après ça, les voyages vers l'Inde se sont développés et on a pour la première fois une carte relativement détaillée du ciel austral dans les deux lettres que Andrea Corsali a envoyées depuis Cochin en 1515 et 1517. Le manuscrit, l'un des manuscrits se trouve à Florence, vous l'avez ici, on voit bien les deux nuages avec le pôle antarctique et il a été reproduit maintes fois dans différentes traductions dont la première en français se trouve dans un livre, on n'irait pas la chercher, « Historial description de l'Éthiopie, 1558 ». Et on peut y lire « Mesurâmes la nuit avec l'astrolabe, nous vîmes deux petites nuées de moyenne grandeur qui se voyaient alentour du pôle, tantôt bas, tantôt haut, avec une étoile au milieu qui, pareillement, se virait loin du pôle. » Donc, on a une description des nuages faite par Andrea Corsali lors de ses voyages. Donc tout ça avant Magellan. Alors, j'arrive au voyage de Magellan qui est représenté ici. Bon, je pense que vous connaissez tous. Donc, départ ici, longe les côtes du Brésil. Il y a des longs arrêts à la baie de San Julian, ensuite dans la baie de Santa Cruz. Il trouve le détroit en octobre 1520. Il sort de l'autre côté fin novembre 1501 et il remonte jusqu'aux Moluques qui sont sa destination. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'en fait il a passé tellement au nord, puisqu'il arrive de l'autre côté au nord de l'équateur et atterrit d'abord aux Philippines, où il se fait tuer dans un engagement militaire auquel il n'aurait pas dû participer. Mais bon, on ne comprend pas aujourd'hui vraiment pourquoi il a passé tellement au nord, mais apparemment, les globes et les cartes dont il disposait, en particulier celle de Martin Behaim, montraient que, si vous voulez, la connaissance de l'hémisphère sud était tellement fragmentaire et mauvaise que les cartes de l'époque étaient erronées, tout simplement. Et donc, il a suivi le meilleur chemin qu'on connaissait, ben, ce n'était pas le bon. Voilà. C'est ce qui explique qu'il ait mis tellement de mois à traverser le Pacifique sans rencontrer aucune île sur le chemin, parce qu'il aurait passé plus au sud, il aurait rencontré la Polynésie française, par exemple, qui n'était pas française à l'époque. Et parce que le problème qu'ils ont eu pendant tous ces mois, c'est qu'il manquait de vivres, il manquait d'eau, et donc une grande partie de l'équipage est mort en cours de route. Je note ici, sur la même carte, le chemin que le pirate Drake, missionné par la reine Elisabeth Ière, a fait en 1577. Il a suivi le même chemin, mais a passé au sud du détroit de Magellan. Il est revenu à piller les navires espagnols tout le long de la côte d'Amérique du Sud, jusqu'à arriver en Californie. Et au lieu de rentrer par le même chemin, ce dont il avait l'intention initialement, mais les Espagnols étaient en alerte cette fois, puisqu'il avait rançonné tellement de bateaux, il est reparti directement en Molucques. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ce voyage? Il n'y a aucune indication dans aucun des textes ou rapports du voyage de Drake sur des observations astronomiques autres qu'une éclipse ou une comète. En fait, un écrivain belge, Houzeau, qui par ailleurs était un excellent astronome puisqu'il a publié le grand catalogue de Houzeau et Lancaster qui passe en revue tous les écrits astronomiques depuis le Moyen-Âge jusqu'à son époque, mais il prétend que le nom de Magellan a été donné au nuage par le pilote Nuno da Silva, qui est un pilote portugais que Drake a capturé au large de l'Afrique avant de passer par le détroit. Mais je pense que c'est tout à fait invraisemblable. On ne retrouve rien d'ailleurs dans les écrits de Nuno da Silva. Il a été relâché au Mexique, ce qui n'était pas très malin, parce qu'évidemment, il a immédiatement été fait prisonnier par les Espagnols, qui l'ont passé par l'Inquisition, mais il n'y a aucune mention des techniques de navigation. Et de toute façon, les Portugais, comme je vous l'ai montré, qui suivaient le voyage en longeant l'Afrique et passaient par le Cap de Bonne-Espérance, ils appelaient déjà à l'époque les nuages les nuées du Cap. Donc il n'y avait aucune raison qu'un pilote portugais appelle nuage de Magellan. Donc on ne sait toujours pas pour l'instant d'où vient ce nom. Bon, j'y reviendrai après. Juste petit détour sur la raison de ces voyages et probablement pourquoi les différents logbooks, les logs de navigation sont restés cachés, c'est que la grande question, c'était de savoir si les Moluques appartenaient au royaume du Portugal ou appartenaient au royaume d'Espagne. Parce que suite au traité de Tordesillas, le pape avait décidé que tout ce qui était à l'ouest d'une certaine limite appartenait au Portugal. La limite avait d'abord été fixée aux îles du Cap-Vert, ensuite à 100 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, et donc l'antéméridien devait se trouver quelque part par là, mais on ne savait pas exactement. La position mesurée aujourd'hui, c'est celle-là. Vous voyez, les Moluques se trouvent à l'ouest, donc dans le domaine du Portugal. Mais selon Magellan, enfin les textes qui sont revenus après son retour, ça se trouvait ici, et donc ça appartenait au roi d'Espagne. Pas d'étonnant, il avait été financé par le roi d'Espagne. Et curieusement, après le traité de Saragosse en 1529, la limite a été fixée ici, et donc clairement, les Moluques appartenaient au domaine du Portugal. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce traité de Saragosse? Eh bien, Charles Quint s'était désintéressé des îles aux épices, parce qu'à ce moment-là, il rançonnait l'argent et l'or au Pérou, et donc c'était beaucoup plus rentable que de vendre des épices. Et par ailleurs, il voulait marier sa sœur au roi du Portugal, et donc il ne fallait pas avoir de différend, donc il a cédé les Moluques au Portugal contre la somme quand même royale de 300 000 ducats. Mais bon, la querelle a été close. Alors, une chose intéressante aussi dans les écrits qui sont revenus après le retour des survivants de Magellan, mais par des écrivains qui ont écrit vers 1550-1560, par exemple Castaneda ou Baruch, ils mentionnent, ou Herrera ici, parle d'une éclipse qui aurait été observée le 11 octobre, mais elle n'est pas visible depuis l'Argentine, puisque si vous regardez les schémas ici, des éclipses calculées par la NASA pour toute l'époque, depuis l'an 0 jusqu'à maintenant, vous remarquerez que c'est la planche 418, c'est-à-dire la page 418 pour déjà 1520, donc il y en avait pas mal avant. On a calculé précisément la visibilité des éclipses. L'éclipse du 15 octobre, qui était une éclipse annulaire, n'était absolument pas visible de la baie de San Julian où se trouvait Magellan. Par contre, il y a une éclipse le 17 avril, totale, qui est parfaitement visible en Amérique du Sud et que l'astronome du bord, Andrés de San Martín, a certainement observé, puisque Castañeda et Baruch parlent de cette éclipse parce qu'ils avaient en main les textes de San Martín, mais qui ont malheureusement disparu depuis. Donc, l'éclipse avait été utilisée pour mesurer la longitude de l'endroit où il se trouvait, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais malheureusement, les textes ont disparu depuis, donc on ne peut pas les vérifier. Pourquoi est-ce qu'ils auraient été disponibles ? Ben, les papiers des Espagnols survivants aux Moluques ont été confisqués par les Portugais à Ternate. Parce qu'évidemment, dès que le San Antonio qui avait fui, n'avait pas continué la traversée, avait fui, était retourné en Espagne, la nouvelle était arrivée que Magellan avait découvert le passage, les Portugais ont envoyé une expédition aux Moluques pour construire des fortins et défendre les îles aux épices contre l'arrivée des Espagnols. Et les malheureux survivants de la Trinidad qui avaient essayé de rejoindre le Mexique par le Pacifique et ont été obligés de revenir à cause des tempêtes, ont été faits prisonniers par les Portugais qui ont confisqué tous les papiers. Et donc, vraisemblablement, les papiers de San Martín étaient entre les mains des Portugais à Ternate qui les ont renvoyés au Portugal, et les deux chroniqueurs Castañeda et Baruch, qui écrivèrent vers 1550, avaient en main les documents de San Martín. Malheureusement, on ne les a plus aujourd'hui. Ça aurait été intéressant de voir s'il avait noté les nuages de Magellan ou pas, puisque Pigafetta, sur le même voyage, les avait notés. Voilà. Bon. Je vais rapidement pour dire, après l'expédition de Magellan, évidemment, les Espagnols ont lancé plusieurs expéditions à la suite. La première, avec le commandador et Geoffrey de Loaiza, avec 7 navires, mais dont aucun n'est revenu. Certains ont pu franchir le détroit, mais aucun n'est revenu en Espagne. Sébastien Caboto, qui n'est pas allé plus loin que le Rio de la Plata, etc., etc. Alonso de Camargo, 3 navires, dont un seul est revenu, et le troisième a longé les côtes du Chili. Première exploration des côtes du Chili, s'est arrêté au Pérou. Aucune mention astronomique dans ces voyages. Par contre, Camargo, donc moins de 20 ans après la découverte du détroit, mentionne dans ses textes qu'ils ont traversé le détroit de Magellan avec une majuscule L, Estrecho de Magallanes, avec un E majuscule. Donc, parmi les pilotes, le nom de Magellan était déjà immédiatement associé au détroit qu'il avait découvert. Bon, c'est normal, c'était la première voie direct pour le Pacifique, et tous les marins étaient au courant. Mais il n'y a pas d'observation astronomique, on aurait pu penser, ben, puisqu'ils ont appelé le détroit de Magellan, pourquoi pas les nuages ? Mais les nuages, comme je vous l'ai dit, n'avaient aucun intérêt astronomique pour eux. Donc voilà. Une expédition hollandaise vers 1600, qui, en fait, est connue parce que c'est elle qui a donné le nom au Cap Horn, parce que Horn, c'était le nom du village de naissance du capitaine du bateau, mais pas d'observation astronomique non plus. Donc, pour arriver aux observations astronomiques intéressantes pour nous, il faut attendre 1595-1597, avec les expéditions de Houtman et Kaiser, qui ont fait des relevés systématiques des constellations de l'hémisphère sud. Et ils indiquent 12 nouvelles constellations qui n'étaient pas connues jusque-là, lesquelles se retrouvent sur les globes de Plancius. Alors, je ne sais pas si vous pouvez facilement voir, voilà la Dorade ici, et on voit le grand nuage, mais écrit Nubecula, Major, et le Toucan, en dessous duquel se trouve le petit nuage. Mais c'est indiqué nuage ou Nubecula Major, Nubecula Minor. Pas de nom de Magellan. Donc, ces nuages vont se retrouver sur les globes à partir de 1600, pas sur tous, parce que celui-là, d'ailleurs, le Hondius 1600, vous pouvez le consulter en ligne à la BNF à Paris, il y a un logiciel qui vous permet de naviguer sur le globe et de voir les détails si ça vous intéresse. Mais sur le Cellarius 1660, il n'y a pas d'indication de nuages. Vous voyez, la Dorade se trouve là en bas, on ne voit pas de nuages. Le Toucan ici, il n'y a pas de nuages. Donc, ce n'était pas encore systématique. Les premiers relevés systématiques de l'hémisphère sud ont été faits par Lacaille, envoyé par l'Observatoire de Paris, au Cap de Bonne-Espérance en 1751-1752. C'est lui qui a introduit un certain nombre de constellations, qu'on dit les constellations techniques. Par exemple, vous avez le réticule, vous avez le Toucan était déjà connu, la montagne de la table, le chevalet et le peintre. Et on voit clairement indiqué ici, alors attendez voir, voilà, le grand nuage et le petit nuage, mais pas de nom de Magellan. Bon, ça peut s'expliquer parce que les scientifiques utilisaient le terme latin, nubecula, ou en français, le nuage, mais il n'y avait pas de raison d'y associer un nom autre. Par contre, sans que ce soit indiqué sur les cartes, Edmund Halley, qui a été envoyé à l'île de Sainte-Hélène par John Flamsteed, qui est le premier astronome royal, il est connu parce qu'il a créé la constellation du chêne de Charles II, hein, le chêne de Charles qui n'existe plus aujourd'hui, parce que bon, il voulait flatter son roi, mais il a sorti un catalogue d'étoiles en 1679 dans lequel il mentionne « Due nubecule quae annotis nebulae magellanicae appellantur ». Donc pour lui, c'est clair que ce sont les marins, les premiers, qui ont appelé ces nuages « nuages de Magellan ». Probablement parce que les récits de voyage de Pigafetta avaient beaucoup circulé, de la même façon qu'ils ont appelé le détroit « détroit de Magellan », ce sont les marins qui ont appelé ces nuages « nuages de Magellan ». Mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé de traces précises de disant que c'est tel marin ou tel pirate qui a donné le nom, simplement c'est devenu d'usage commun, jusqu'au fait, je reviens là, au relevé de Lacaille, puisque Lacaille dit, vous le voyez là en bas, les nuages qu'on appelle communément les nuages de Magellan et que les Portugais appellent les nuages du Cap. Donc ce sont les marins qui ont donné ce nom de nuages de Magellan et pas du tout les scientifiques. Mais c'est passé dans le langage commun dès que le latin a été abandonné. Vous voyez ici le relevé de John Herschel fait en 1847 et le texte, il ne parle que de nubecule, mais en dessous de la figure qui est montré ici, qui est une observation visuelle. On ne peut pas dire que ça ressemble vraiment au grand nuage. Hein. Bon, il dit « The two Magellanic clouds are seen with the naked eye ». Donc, c'est la première fois qu'on voit le nom apparaître dans une publication scientifique. Et à partir de là, ça s'est généralisé, puisque le latin, comme vous le savez, a été abandonné par les scientifiques. Bon, j'ai assez pour la partie historique. Je pense que je vous ai fait faire le tour du monde assez longtemps. Mais on va voir... Quel est l'intérêt aujourd'hui d'étudier ces nuages? Alors, voilà l'exemple, le grand nuage de Magellan, une carte en noir et blanc, enfin une photo en noir et blanc qui est prise avec un télescope de Schmidt. Pour que vous ayez une idée, je vous ai apporté ici une copie film, vous ne voyez rien dessus, mais c'est la taille réelle de la plaque photo qui est mise dans le télescope et qui couvre à peu près l'ensemble du grand nuage de Magellan. C'est comme avec votre appareil photo. Si votre objectif normal a un certain champ de vue, si vous voulez avoir un champ de vue plus grand, il faut que vous mettiez un objectif spécial grand angle. Ben, c'est pareil pour les télescopes. Si on veut faire une cartographie du ciel relativement rapidement, il faut prendre un télescope grand angle et ça s'appelle un télescope de Schmidt, qui a un miroir sphérique. Et la plaque photo se met ici au centre. Donc ce télescope de Schmidt, qui est celui de l'ESO, qui a servi à faire la carte du ciel de l'hémisphère sud, c'est un télescope qui a un miroir de 1,50 m et une lame correctrice de 1 m, parce que selon que vous voulez travailler dans le bleu ou dans le rouge, il faut changer le correcteur, et donc vous ne faites pas de photographie en couleur avec ce télescope. Vous faites une première image en bleu, ensuite une image en rouge, éventuellement une image en vert, et vous combinez après coup. Alors, voilà le petit nuage à... Ce n'est pas la même échelle, il est plus petit que le grand. Hein. Et lorsque vous faites la composition couleur, on distingue effectivement les différentes composantes du grand nuage. La barre ici en bleu qui contient les étoiles vieilles, et ce qui est surtout intéressant, ce sont toutes les régions en rouge ici, qui sont rouges parce que c'est la raie H-alpha de l'hydrogène, et le gaz est excité par des étoiles jeunes en formation, mais qui sont cachées à l'intérieur du gaz et de la poussière. Donc ça vous permet de voir dans le nuage que la partie principale n'est plus très active ici, mais vous avez quand même des régions actives de formation d'étoiles, dont celle-ci qui est connue sous le nom de trente dorades. Alors, l'intérêt de trente dorades, est, vous allez le voir, le suivant. Si on l'étudie en détail avec un plus grand télescope, donc forcément un plus petit champ, voilà le VLT de 8,20 m de l'Observatoire européen austral au Chili, voilà 30 dorades vues par le VLT. Et vous voyez, beaucoup plus de détails, et en particulier, on peut voir un certain nombre de filaments ici, ou de bulles qui sont des bulles de gaz éjectées par certaines étoiles. C'est d'ailleurs une des façons d'enrichir le milieu interstellaire en éléments nouvellement formés dans les étoiles. Alors, par exemple, un événement qui nous a beaucoup intéressés, nous, astronomes, c'est la supernova 1987A dans le grand nuage. Voilà, une fois, à gauche, une photo avant, à droite, la photo après. Bon, on ne voit pas très bien, je vais vous montrer plus en détail après. Alors, où est-ce que c'est? Ici, il y a une étoile supplémentaire, là. Oui. Mais si vous regardez avec le VLT plus en détail, on le voit beaucoup mieux. Voilà l'image avant, l'image après. Voilà, ça ne fait plus aucun doute. Il y a une étoile nouvelle ici qui est une supernova qui a explosé dans le grand nuage. C'est la seule qu'on connaisse à ce jour. L'intérêt qu'elle a, c'est que par chance, l'étoile qui a explosé avait été mesurée avec un spectrographe prisme objectif auparavant, et on sait que c'était une étoile de type bleu. Or ça, ça a été une surprise pour les astronomes, parce qu'on pensait jusque-là que les étoiles qui explosaient en supernova étaient des supergéantes rouges. Or là, on avait une supergéante bleue. Le problème n'est toujours pas résolu aujourd'hui. J'ai vu la semaine dernière une publication par des collègues hollandais qui essayent de simuler l'explosion d'une supernova à partir d'une étoile binaire. Il se pourrait très bien que l'étoile qui a explosé faisait partie d'un système binaire, ce qui peut expliquer qu'elle ait évolué différemment d'une étoile simple. Donc, l'étude de ces supernovae proches est extrêmement importante pour nous. Et évidemment, on attend une nouvelle supernova dès que possible, hein, y compris d'ailleurs dans notre galaxie. Bon, on voit au fil du temps l'onde de choc de celle-ci se propager. Ça, c'est un cliché du Hubble Space Telescope qui montre bien l'onde de choc qui a atteint l'enveloppe de gaz qui avait été éjectée précédemment par l'étoile. Comme vous l'avez vu sur l'image précédente, où on voit des tas d'étoiles qui ont éjecté des enveloppes avant, éventuellement une explosion ou pas. Alors, on a cru qu'on y était parce que le 15 octobre 2019, il y a eu une alerte dans le nuage de Magellan, une nouvelle candidate supernova avait été détectée. Vous voyez à droite la position de la supernova 87A et à gauche, la nouvelle détection qui était une étoile qui était en train de monter en luminosité fortement, ça aurait pu être une supernova. En fait, quand on a pris le spectre, c'est notre consortium qui étudie les supernovae, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Si on fait la courbe de lumière du nouvel événement, ce sont les points bleus, superposé à la courbe de lumière de 87A, on voit que c'est exactement la même chose. Et au moment où on a pu enfin prendre un spectre, donc ici, 70 jours après la découverte, on s'est rendu compte que le spectre était exactement le même que celui de la supernova 87A. Vous voyez sur la figure du bas, les deux spectres sont superposés. Bon, c'est un peu bruité, mais c'est exactement la même chose. En fait, ce qu'on a vu à cet moment-là, c'était un écho de la supernova 87A, la lumière s'était propagée et a été réfléchie par on ne sait quoi, un ensemble de gaz ou de poussière, et a renvoyé chez nous la lumière de l'événement qui avait eu lieu 33 ans avant. Donc ce n'est pas une nouvelle supernova, c'est simplement un écho de la précédente. Mais vous pensez bien que les nuages, comme d'ailleurs le reste du ciel, sont surveillés en permanence par les nouveaux télescopes automatiques. Juste pour vous donner une idée, 1987A, ça veut dire que c'est la première supernova qui a été découverte en 1987. Or, elle a été découverte le 23 février. J'ai regardé cette année, le 23 février 2022, on en est à la supernova 2022 ATR, c'est-à-dire qu'on a fait 24 fois 24 fois le tour de l'alphabet jusqu'au 23 février, et puis là, au mois de novembre, on en est beaucoup plus loin. Pas dans les nuages de Magellan, évidemment. Et aujourd'hui, on découvre systématiquement, par ces petits télescopes qui scannent le ciel en permanence, typiquement une dizaine de nouvelles supernovae chaque nuit. Et le problème que nous avons, nous, ceux qui s'intéressent aux supernovae, c'est qu'il n'y a pas assez de temps de télescope pour prendre un spectre de chacune d'elles, parce qu'il y a des tas d'autres choses à faire, et on ne peut pas monopoliser un télescope, rien. Rien que pour les supernovae. Par contre, on sait qu'il y en a d'autres qui ont explosé dans le grand nuage. On étudie, par exemple, les restes de supernova. Voici, dans le grand nuage, vous voyez une enveloppe de gaz, on voit bien circulaire, qui a dû être éjectée par quelque chose au centre. Et quand on prend le spectre, ici, vous avez Hβ et O3, les raies du gaz du nuage, et vous voyez les petits points à droite. Ce sont les points des filaments ici qui sont décalés vers le rouge de 1000 km par seconde. Donc ça veut dire que ces filaments s'éloignent de là où ils ont explosé, 1000 km par seconde. On mesure le diamètre du cercle et on peut ainsi revenir en arrière et trouver que la supernova a dû exploser environ il y a 1700 ans. Donc il y en a de temps en temps. Il y en a d'autres, par exemple N49, pareil dans le grand nuage, ou bien celle-ci dans le petit nuage qui, elle, a été détectée en rayons X. Il est difficile d'évaluer la fréquence attendue des supernovae parce que ça dépend un peu du taux de formation d'étoiles. Et dans notre propre galaxie, statistiquement, en observant les galaxies de même type à l'extérieur, on s'attendrait à trouver 3 supernovae galactiques tous les 100 ans. Or, depuis 1604, la supernova de Kepler, on n'en a observé aucune. Donc, soit il y a une erreur dans les estimations, soit plus probablement, les supernovas ne sont pas toujours visibles depuis la Terre. Par exemple, si elles se trouvent de l'autre côté du centre galactique, il y a trop de poussière ou d'absorption entre la supernova et nous pour qu'on puisse la détecter facilement. Donc voilà, on attend la prochaine supernova aussi bien dans les nuages de Magellan que dans notre galaxie. Et à ce sujet-là, on développe une collaboration entre astronomes amateurs et professionnels. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des astronomes amateurs, mais il est évident que le jour où il y aura une supernova galactique, elle sera tellement brillante que beaucoup d'amateurs pourront participer à l'étude scientifique. Simplement, il faut réagir vite. Alors, autre intérêt dans les nuages de Magellan, par exemple, l'étude des abondances. Ici, je vous montre un spectre d'une nébuleuse planétaire. Bon, ça ne vous dit peut-être rien, mais pour nous, c'est très parlant. Vous avez le bleu à gauche, 4000 angstroms, le rouge à droite. Voilà la raie de H-alpha, qui est assez isolée et qui explique la couleur rouge que vous voyez du gaz ionisé quand vous faites une photo en rouge. Et puis, à gauche, ici, les raies de l'oxygène et Hβ, qui est une autre raie de l'hydrogène. Bon, ça, c'est une nébuleuse planétaire, disons, standard. Mais vous en avez d'autres dans le nuage de Magellan qui montrent ça. Vous reconnaissez la raie Hα, mais vous voyez qu'il y a deux raies de part et d'autre, qui sont très intenses, qui sont les raies de l'azote. Et à côté du triplet Hβ-oxygène-3, on voit une très forte raie de l'hélium. Eh bien, ça, c'est une nébuleuse planétaire qui est suffisamment massive pour avoir produit de l'azote et de l'hélium et l'avoir éjecté au moment où elle éjecte son enveloppe. Et c'est comme ça que l'univers s'enrichit progressivement en éléments lourds, les nébuleuses planétaires fabriquant l'hélium et l'azote, et les supernovae plutôt l'oxygène ou le fer. Comme disait Hubert Reeves, nous sommes de la poussière d'étoiles parce que tous ces éléments sont fabriqués dans ces étoiles, soit qui explosent en supernovae, soit qui éjectent leur enveloppe gentiment sous la forme de nébuleuses planétaires. Donc on continue à surveiller les nuages de Magellan, mais plus avec les télescopes de Schmidt. On a un télescope plus moderne maintenant qui se trouve à l'ESO, qui s'appelle VISTA, qui est un télescope grand champ, un peu moins grand champ que le télescope de Schmidt, 1,6 degré de champ de vue, et on prend des clichés, cette fois, en infrarouge pour percer un petit peu la poussière. Ici, à droite, vous avez des clichés de 30 dorades, toujours la même région, avec différents télescopes. D'abord, à droite, un petit télescope avec les premières caméras infrarouges qui avaient peu de pixels. Et à gauche, vous voyez qu'avec le télescope VISTA, on voit beaucoup plus de détails. Et l'image de 30 dorades, eh bien, on voit beaucoup plus au centre et davantage d'étoiles et de gaz. Le problème, c'est que avec ces myriades d'étoiles qu'on voit, ben, si on veut les analyser, il faut prendre des spectres. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, déjà pour les supernovae, alors parlons pas des milliers d'étoiles ordinaires, il n'y a pas assez de temps de télescope pour les étudier tous. Donc, on essaye de faire ce qu'on appelle un diagramme couleur-couleur. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie technique, mais vous avez ici une couleur bleue, disons, et une couleur rouge. Les étoiles ordinaires, ce sont les points noirs ici. Tout ça, c'est dans le grand nuage de Magellan. La ligne verte, c'est la limite à gauche de laquelle on ne devrait pas trouver de nébuleuses planétaires. Et à gauche de laquelle on devrait, par contre, trouver des quasars. Et donc, on a fait des spectres de quelques quasars, qui sont les points rouges. Effectivement, on en trouve une bonne série. Par contre, les points bleus sont des quasars qui ont été trouvés par d'autres techniques et on voit que un diagramme couleur-couleur ne permet pas de séparer un type d'objet d'un autre, en tout cas pas suffisamment. Alors on me dirait, quel est l'intérêt des quasars? Les quasars sont situés suffisamment loin pour que ce soit des points, d'où d'ailleurs la possibilité de les confondre avec des nébuleuses planétaires. Mais comme ils sont loin, vous avez un phare au loin et vous regardez un nuage. Le phare traverse le nuage et vous permet de mesurer l'absorption créée par le nuage. Donc on peut mesurer la composition chimique en éléments genre calcium ou sodium en observant le spectre du quasar à travers les nuages et du même coup, en mesurant la vitesse de déplacement de ces raies d'absorption, avoir une idée sur la structure et l'évolution du nuage lui-même. Parce que ce n'est pas statique, il doit être soit en rotation, mais comme c'est une galaxie irrégulière, on ne sait pas exactement, soit en expansion, en tout cas, il n'est pas statique. Et donc, de mesurer les raies d'absorption des quasars qui sont situés derrière, vous permet d'avoir une idée sur la structure du nuage. Alors, soit dit en passant, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé que le petit nuage de Magellan, vous avez vu que c'est une tache quelconque, eh bien, en fait, c'est un cigare qui est 5 fois plus long dans la direction de la ligne de visée que ce qu'on voit sur une image. Donc, quand on parle de distance du petit nuage de Magellan, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, puisqu'il est très étendu le long de la ligne de visée. Et ça, on peut le mesurer grâce aux mesures des quasars et aussi grâce aux mesures du satellite Gaïa, dont je vais vous parler pour terminer. Alors, plaçons notre galaxie et les nuages de Magellan dans le contexte général de l'évolution de l'univers. Je vous montre ici une simulation qui a été faite, si ça marche, oui, par notre collègue Stéphane Colombi à l'IAP. On part du début de l'univers où c'est complètement uniforme, et au fur et à mesure où le temps passe, sous l'attraction gravitationnelle de certains éléments, vous voyez que ça se concentre plus vers des endroits où il y a un peu plus de masse, et la masse attirant la masse, de plus en plus de concentration à ces endroits-là, où se trouvent aujourd'hui les galaxies, alors qu'entre les éléments, il y a relativement du vide, et ça, ce sont les nœuds dans lesquels se trouvent les galaxies les plus massives. Donc, les galaxies se forment par agrégation de différents éléments au fur et à mesure de l'évolution de l'univers. Eh bien, grâce aux mesures de Gaïa, on se rend compte que notre propre galaxie, qui se trouve quelque part dans un filament comme celui-là, s'est construite petit à petit de la même façon. Bon, je passe là-dessus. Voilà. On pensait que les deux nuages de Magellan avaient une trajectoire qui les avait amenés à passer à travers notre galaxie il y a 5 ou 6 milliards d'années. En fait, on se rend compte aujourd'hui avec les mesures plus précises de Gaïa que ce n'est probablement pas le cas. Les nuages de Magellan font partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand. Vous avez ici le grand nuage et le petit nuage. Et autour, il y a toute une traînée de gaz neutre en hydrogène qui est mesurée par les ondes radio et qui s'étend quasiment jusqu'à Messier 31, c'est-à-dire jusqu'à Andromède, et avec une tête qui pourrait être due au mouvement des nuages de Magellan dans le gaz qui entoure notre propre galaxie. Donc, ces nuages sont en déplacement. J'avais une simulation, mais qui malheureusement ne marche pas, pour vous montrer que, à partir des mesures de Gaïa, on sait maintenant, puisque c'est suffisamment précis pour qu'on puisse mesurer la vitesse à 3 dimensions des éléments des nuages, qu'ils sont en train de se diriger vers nous, peut-être fusionner avec notre galaxie d'ici 1 à 1,5 milliard d'années. Le peut-être n'est pas sûr pour une raison très simple, c'est que quand on prend des images de ces galaxies, on ne voit que la lumière visible ou infrarouge. Or, vous savez que la masse visible ne fait que 5% de la masse de l'univers. Et donc, la grande question, on ne connaît pas quelle est la masse cachée de ces nuages. Si la matière noire des nuages est suffisamment importante, avec leur vitesse, ils ne seront pas suffisamment freinés lors du passage dans notre galaxie et ils continueront à s'éloigner vers l'infini. Si la masse cachée est suffisamment petite, ils seront absorbés et feront grossir notre galaxie. Alors, ce schéma, ce n'est pas une invention, ça s'est déjà passé dans le passé. Et si on regarde... Bon, je passe là-dessus, si vous avez des questions, je pourrais revenir vous expliquer comment on a détecté les traces des galaxies qui ont été absorbées dans le passé par notre propre galaxie. On peut faire un schéma de croissance de notre galaxie qui est le suivant. Vous avez un arbre. Tout là-haut, c'est les débuts de l'univers. On ne sait pas exactement quelle était la forme de notre galaxie. Par contre, on a détecté des résidus de courants d'étoiles qui correspondent à des galaxies comme par exemple celle-là, Kraken, qui a fusionné avec la nôtre il y a 11 milliards, le Helmstream qui a fusionné il y a 10 milliards d'années, le Gaia Enceladus qui a fusionné il y a 9 milliards d'années, et la plus récente, c'est la naine de Sagittaire qui a fusionné avec notre galaxie il y a 7 milliards d'années. On trouve des résidus de ces galaxies parce qu'elles étaient suffisamment grosses et n'ont pas été complètement diluées. Il est fort probable qu'au tout début, notre galaxie s'est également formée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur les filaments, par agrégation de différentes galaxies de taille plus modeste. Et si les simulations qu'on fait aujourd'hui se vérifient, le LMC, le grand nuage et le petit nuage, fusionneront eux aussi avec notre galaxie dans à peu près 1 milliard d'années. Si leur masse est trop grande, eh ben, ils passeront à côté en arrachant du gaz de notre galaxie et ils continueront leur chemin. Ce qui est bien établi, c'est que Andromède fusionnera avec notre galaxie d'ici 1,5 à 2 milliards d'années pour faire une supergalaxie, peut-être une elliptique géante. C'est comme ça qu'on pense que les galaxies elliptiques se sont formées par fusion progressive de galaxies de taille croissante. Donc, les nuages de Magellan sont des petits éléments, des briques de construction de notre propre galaxie, mais comme elles sont suffisamment proches et encore jeunes, elles nous permettent d'étudier ce que pouvaient être les premières galaxies aux origines de l'univers. D'où l'intérêt de continuer à les étudier. Voilà. Je vous remercie. Et évidemment, si vous avez des questions...
Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation donc, qui était dans l'actualité, puisqu'on on célèbre les 500 ans de la fin du voyage de Magellan, puis tu as fait référence au bateau actuellement, et demain, c'est le départ à la route du Rhum, donc vraiment,
oui,
on est en plein dans l'actualité.
Ça a été célébré en octobre 2020, mais comme c'était en plein dans Covid, il n'y a pas eu d'événement très marquant, mais des voiliers espagnols et chiliens ont traversé le détroit de Magellan exactement dans le même sens que Magellan lui-même. Voilà.
Alors, je vais donner la parole à la salle pour s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, mais je vois qu'on est suivi. Il y a des messages qui nous disent qu'on est écouté à Paris, en Normandie, en Allemagne, au Sénégal, au Chili. Donc, ça nous fait plaisir de voir qu'on est écouté à plein d'endroits comme ça sur la Terre. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur le chat, n'hésitez pas. Et y a-t-il des questions dans la salle, là, dans notre audience ? Oui ?
Oui, bonsoir. La NASA a publié des images des nuages de Magellan prises par le James Webb Space Telescope. Alors, comme on commence à en avoir maintenant l'habitude, c'est des images qui sont très bien résolues avec beaucoup de profondeur.
Ouais.
Qu'est-ce que peut apporter le James Webb Space Telescope dans l'étude des nuages de Magellan ?
Ouais, je dirais le même genre de choses qu'il peut apporter dans l'étude de l'astronomie en général. Le James Webb, c'est un télescope infrarouge. Donc, d'une part, il permettra d'observer plus en détail les régions qui sont un peu cachées par la poussière. Il y en a aussi dans les nuages de Magellan, en particulier le centre de 30 Doradus, de 30 Dorades, contient un amas d'étoiles jeunes dont on pense que les plus massifs font 100 ou 200 fois la masse du Soleil, mais qui n'ont pas encore été observés directement. Donc peut-être permettra de les voir et de mesurer leur masse directement. Et par ailleurs, comme il travaille dans l'infrarouge, l'intérêt, c'est plus vous observez loin dans l'univers, plus la lumière est décalée vers le rouge. Et donc, les raies d'H alpha, par exemple, ou d'oxygène que je vous montrais dans les nébuleuses planétaires des nuages de Magellan, sont décalées vers le rouge dans des galaxies plus lointaines. Et il faut donc un télescope infrarouge pour les étudier. Mais pour les nuages de Magellan, leur vitesse par rapport à nous, c'est 150 jusqu'à 300 km par seconde. Les raies restent dans le domaine visible, donc pour l'étude spectroscopique des éléments classiques, ça n'apportera rien de spécial. C'est surtout pour percer la poussière. Le James Webb est surtout conçu pour étudier des objets à très très grande distance, à grand redshift.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Oui ?
Bonsoir. Vous avez mentionné la supernova qui a rebondi 33 ans après l'original.
Oui.
Est-ce qu'on peut s'en servir pour calculer une masse théorique de la masse noire ? Et est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Parce que bon, c'est quand même intrigant, je dirais, de oui, voir la même image.
Oui, c'est intrigant pour nous aussi parce qu'on n'a pas encore bien figuré quelle pouvait être la composition de la matière qui réfléchirait comme ça une onde lumineuse sans la modifier. Par contre, pour la matière noire, je ne pense pas, parce que, si vous voulez, la lumière émise par la supernova est une lumière standard, alors qu'elle soit réfléchie par un miroir, quelle que soit la nature du miroir, ça ne changera rien. Par contre, si on arrivait à déterminer la nature même du miroir, mais pour l'instant, on ne sait pas, mais je ne pense pas que ça puisse être de la matière noire, puisque ce qu'on sait actuellement, ou ce qu'on suppose pour la matière noire, ce n'est pas une matière qui interagit avec la lumière, par définition. Donc, on ne risque pas de la voir.
Alors, il y a une question sur le chat. Là, est-ce qu'on sait si les nuages de Magellan vont d'abord rencontrer la Voie lactée ou la galaxie d'Andromède ? Alors, il y a cet inconnu de la masse noire, de la masse sombre dont tu nous as parlé. Mais malgré ces inconnus, est-ce qu'on sait répondre à ça ? Parce que les ordres de grandeur que tu as donné, d'années,
oui,
c'est comparable.
Non, ça, on le sait bien. Parce que les nuages de Magellan se dirigent vers notre galaxie actuellement. Donc, ils s'éloignent d'Andromède. La question, c'est est-ce qu'ils vont fusionner avec notre galaxie ou simplement rebondir dessus et repartir plus loin ? Et Andromède suit derrière.
Donc, les nuages de Magellan vont taper notre galaxie.
Notre première galaxie n'est pas du tout Andromède. Par contre, les gens qui ont fait des simulations pensent que les nuages de Magellan pourraient, à l'origine, venir d'Andromède ou du voisinage d'Andromède. Parce que, si vous voulez, quand on a des points de mesure aujourd'hui, on peut essayer de remonter dans le passé et voir d'où ils viennent. Ça pointe clairement vers la région d'Andromède, mais peut-être qu'ils ont passé à côté d'Andromède qui les a déviés vers nous. Ça, on ne sait pas.
D'accord. D'autres questions dans la salle ? Oui ?
Oui, merci. Juste une question de Candide. Est-ce que vous pourriez resituer par rapport au groupe local la Voie lactée et les nuages de Magellan, s'il vous plaît? Merci, oui.
J'avais une diapo, j'ai passé un peu vite là-dessus. Alors, je reviens. Voilà. Sur ce schéma, vous voyez les deux galaxies, les grosses, qui sont la nôtre. Alors, la nôtre et Andromède. En fait, ce n'est pas à l'échelle, parce qu'Andromède, on pense qu'elle est à peu près deux fois plus massive que notre galaxie. Vous avez ici le barycentre des deux galaxies, parce que du point de vue de la gravité, tout tourne autour du barycentre. Et vous voyez que le barycentre de notre galaxie est légèrement déplacé par rapport au centre de la galaxie à cause du grand nuage de Magellan qui se trouve à côté. Mais la masse du nuage de Magellan est insuffisante pour modifier substantiellement le barycentre de notre galaxie et Andromède, qui sont 10 ou 100 fois plus massives. Ça répond à votre question ?
Alors, il y a une autre question sur le chat qui est, donc tu as dit qu'on ne connaissait pas bien la proportion de masse sombre dans les nuages de Magellan.
Oui.
Et comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas bien? Pourquoi on n'arrive pas à le mesurer, sachant qu'on le sait, on connaît quand même assez bien cette proportion pour d'autres galaxies?
Ben, pour d'autres galaxies, la quantité de masse sombre est mesurée par le mouvement gravitationnel d'une galaxie autour d'une autre. Le problème, c'est que quand vous êtes dans l'univers lointain, essentiellement, c'est la vitesse de récession de l'univers. Comme le schéma que je venais de vous montrer maintenant vous montre bien la complexité de notre groupe local. On n'est pas du tout dans le flot de Hubble, comme on dit, dans l'éloignement cosmologique. Parce qu'Andromède arrive vers nous à moins 300 km par seconde, le nuage de Magellan de la même façon, et d'autres galaxies naines ont des vitesses qui sont complètement différentes. Donc on a un système très complexe de vitesses et on peut difficilement déterminer la masse qui provoque ces mouvements aujourd'hui. On a une idée d'un ordre de grandeur, la quantité de masse cachée, ça dépend de ce que vous utilisez. Si par exemple vous utilisez les étoiles du halo, il se pourrait que la masse cachée soit deux fois ou trois fois la masse visible, mais on n'a aucune idée précise pour les galaxies du groupe local. Ce qu'on sait dans l'univers, c'est globalement par l'ensemble des galaxies qu'on voit suffisamment loin et pour lesquelles on n'est pas perturbé par ce qu'on appelle les mouvements propres.
D'accord, merci. D'autres questions dans la salle? On a tout épuisé. Si, encore une? Oui. Pardon, excusez-moi, je croyais que vous aviez une question. Il y en a une là, même d'autres.
Est-ce qu'on voit des amas globulaires autour des nuages de Magellan?
Pas autour, dedans. Ouais. Justement, c'est une des diapos que j'ai dû sauter parce que j'étais un peu à court de temps. Voilà. Ça, c'est un schéma qui vous donne des mesures d'amas globulaires dans notre galaxie. Donc, vous avez... Il faut que je pointe là. L'âge estimé à partir des étoiles qui le composent et la métallicité. Plus l'objet est vieux, moins il contient de métaux. Et donc, ça, c'est un diagramme composite de tous les amas globulaires dans notre galaxie qu'on peut ensuite, grâce à Gaïa, décomposer en amas globulaires pour chacune des galaxies naines qui a fusionné avec notre propre galaxie. Vous voyez qu'on a toujours la même relation. Simplement, elle est légèrement décalée. Eh bien, on a la même chose dans les nuages de Magellan. Les amas globulaires des nuages de Magellan suivent la même relation. Les plus anciens sont les plus pauvres en métaux. Et donc, c'est la même histoire des objets assez vieux qui datent de la formation de ces nuages proprement dit. L'image de Vista que je vous montrais, il y avait justement les amas globulaires dans 30 dorades. Grâce à Vista qui permet de pénétrer la poussière, on en a trouvé plus d'une centaine de nouveaux à l'intérieur de cette seule région de 30 dorades. Mais la manière de les étudier, c'est la même. Il faut faire des spectres des étoiles pour savoir le type, leur âge et la métallicité.
Y a-t-il encore une ou deux questions dans la salle? Oui, une là.
Une autre diapositive est intéressante, c'est celle où on voit les deux galaxies dans leur filament propre, avec des antennes et une traînée. Est-ce que on peut en déduire leur histoire ou qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Alors, vous parlez de ça? Oui. Une chose déjà qui paraît claire à partir de ce diagramme, c'est que la trajectoire du petit nuage n'est pas la même que la trajectoire du grand nuage. Et donc, on pense que leur interaction est relativement récente. Et c'est aussi à partir de là que, entre autres, qu'on a déduit que la traînée, comme elle dirige vers MSC31, que le grand nuage avait passé pas loin d'Andromède il y a quelques milliards d'années. Simplement, cette mesure a été précisée par les mesures de Gaïa qui permet d'avoir la vitesse à trois dimensions des éléments du nuage et donc ça confirme que ça vient bien du côté d'Andromède. Par contre, ce qu'on ne sait pas exactement, c'est quelle est l'origine de ce gaz. Est-ce que c'est du gaz qui a été arraché aux petits nuages et aux grands nuages à cause de leur interaction? Est-ce que c'est du gaz qui a été arraché au moment où ils arrivent dans la banlieue de notre galaxie, parce qu'ils sont dans la banlieue de notre galaxie, donc ils se frottent au gaz de notre propre galaxie? Ça, on ne sait pas. L'origine de ces traînées, on ne les connaît pas exactement. C'est en cours d'étude, mais bon. Je dis, on a mesuré aussi du gaz moléculaire en CO avec le nouveau télescope ALMA au Chili. Donc, ce n'est pas seulement un hydrogène neutre. Il y a du CO, il y a du NH3, etc. etc.
Merci. Ben, je vais vous proposer d'arrêter là. Il y a un commentaire là, sur le chat de quelqu'un qui imagine qu'il y a une civilisation sur une planète dans les petits nuages, dans un nuage de Magellan. On peut imaginer que la vue de notre galaxie, vue de cette civilisation, ça doit être très spectaculaire dans le ciel. Et puis moi, je vais finir, après ce commentaire, par une dernière question auprès de toi, Michel.
Oui.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu le ciel du Sud, et notamment les nuages de Magellan? Est-ce que tu as ressenti, enfin, est-ce que tu as un souvenir de ça?
J'en ai un très bon souvenir, parce que comme je vous l'ai dit au début, le ciel de l'hémisphère sud me paraît plus beau que l'hémisphère nord, si on peut dire comme ça. Alors, il faut dire aussi que dans l'hémisphère nord, c'est pour ça que je vous mets cette diapo, on est très pollué par la lumière, même si vous allez à la campagne chez nous, on n'arrive jamais à voir la Voie lactée aussi bien que ce qu'on voit dans le désert du Chili. Je ne parle pas à Santiago. Mais... Donc, la vision des nuages de Magellan est quelque chose de très, très intéressant, je veux dire. Et je pense que c'est ce qui a ému Pigafetta, qui le fait qu'il ait mentionné dans son récit, parce que ce n'était pas un astronome, simplement, il a été émerveillé par la beauté du ciel austral. Comme beaucoup d'entre nous, quand vous allez dans l'hémisphère sud, Alors, il faut y aller. Si vous y allez, allez-y entre octobre et février pour voir les nuages de Magellan et choisissez votre voyage une période sans lune, parce que s'il y a la pleine lune, on oublie ça souvent quand on veut voir le ciel, que la lune, si on pouvait l'éteindre, nous, astronomes, j'entends, ça nous aiderait beaucoup.
Voilà. Ok, merci beaucoup, Michel, une fois de plus. Merci à vous d'être venus dans notre amphithéâtre. Merci à vous qui nous avez suivis sur Internet. Et puis donc, on se retrouve le mois prochain, le 6 décembre, avec David Elbaz. Voilà, merci. Bonsoir à tous.